Ce balado vous est présenté par interbible.org, le portail biblique francophone. Ici Sébastien Daune. Bienvenue au Récit insolite de la Bible, une série d'émissions dont l'objet est de redécouvrir des textes bibliques méconnus ou curieux, tout en faisant des liens avec notre vie. Abraham, vous connaissez certainement. C'est un personnage qui est fort important dans la Bible. On lui donne même le titre de « Père des croyants au Dieu unique » parce qu'il y a des Juifs, des chrétiens, des musulmans qui se réclament d'Abraham pour avoir croire en un Dieu unique. Pourtant, si un père agissait aujourd'hui comme Abraham le fait dans le récit qu'on va analyser, il faudrait le signaler soit à la Direction de la protection de la jeunesse ou même à la police. On pourrait intituler cet épisode « Abraham, la chronique d'un père indigne ». Puisqu'on va regarder l'histoire du sacrifice de son fils ou du presque sacrifice de son fils. Bonne émission. Avant d'aller vers Abraham, prenons le temps de regarder le courrier des auditeurs. Puisqu'on parlait la semaine dernière du prophète Osée, j'ai reçu un courriel concernant les vrais et faux prophètes. Je vous la lis. Si les prophètes de la Bible étaient des envoyés de Dieu transmettant son message, est-ce qu'il faut croire ceux qui disent porter le message de Dieu aujourd'hui? Est-ce une simple imagination de leur part? Comment distinguer un vrai prophète d'un faux? Et c'est signé Touba Jonas, j'espère que je le prononce comme il faut, il est originaire du Cameroun. Bon, mais les prophètes sont généralement on a parlé d'Osée la semaine passée, des hommes qui sont mal compris, mal aimés, parce qu'ils dérangent les pouvoirs en place. Ils ont une parole qui vont aller contre la corruption, ils vont parler contre les idolâtries, et même contre la politique des fois, contre le roi qui va prendre tel ou tel choix. Alors, on comprend que certains d'entre eux vont subir une opposition du peuple ou d'une certaine classe de la société qui sont pas préparés à avoir leur façon de voir les choses. Par exemple, Jean-Baptiste ou même Jésus de Nazareth, c'est un prophète par excellence qui finit par payer de leur vie, hein, et Jean et Jésus, pour la liberté de parole qu'ils ont. Et dans le même temps, la parole qu'ils prononcent va susciter un écho profond dans le cœur de ceux qui vont l'écouter, vont devenir les disciples et qui vont continuer à prendre en charge et de continuer de partager cette parole à leur tour avec ceux qu'ils rencontrent. Si on continue à lire aujourd'hui les écrits des prophètes d'Israël et aussi les écrits des disciples, hein, le Nouveau Testament, c'est précisément parce que leur parole continue à nous réveiller, continue à nous inspirer aujourd'hui. Alors, venons-en à la question centrale de notre ami originaire du Cameroun. Comment distinguer le vrai du faux prophète? Bien, honnêtement, je ne peux pas d'emblée distinguer à coup sûr le vrai du faux prophète. Il faut prendre une espèce de recul, essayer de voir les effets que produit telle ou telle parole. Comme pour toute chose, il faut avoir un regard critique. Bon, je vous rappelle une parole de Jésus qui peut nous être utile à ce moment-ci. C'est à ses bons ou mauvais fruits que l'on reconnaît un bon ou mauvais arbre. Ce critère fournit de quoi faire une espèce de distinction. Il y a trop de personnes qui vont se laisser séduire par les apparences, par le succès de tel ou tel homme qui se présente comme un grand prophète, ou on peut penser à certains prédicateurs américains, les preachers aux États-Unis. Quand on a peu d'esprit critique, bien souvent on va se faire embarquer dans toutes sortes de choses. Il ne faut jamais oublier que la parole prophétique va remettre en question, va dénoncer, va appeler à la conversion sans se soucier de l'air du temps. Il va aller à l'encontre de ce qu'on entend à gauche, à droite. Ça ne sera pas quelque chose de facile. Bon, des prophètes aujourd'hui, oui, c'est vrai que le mot prophète va surtout s'employer dans un contexte religieux. On va surtout parler des prophètes de la Bible ou des temps anciens. Mais oui, on pourrait utiliser le mot prophète pour parler de personnes qui sont dans notre histoire récente. Tu sais, au 20e siècle, on peut penser à plusieurs personnes qui ont marqué leur époque par leur pensée, qui ont fait réfléchir, faire changer les choses. Ça peut être des Martin Luther King, l'abbé Pierre, Mère Teresa, ou même plus proche de nous, ici à Montréal, le père John, Emmett Johns, Pops, dans la rue de Montréal. Ça ne doit pas pour autant nous faire oublier que ce terme de prophète peut être appliqué à toute personne, tout croyant, même incroyant, qui a des convictions intérieures très fortes qui poussent à lutter contre la pauvreté, contre la violence, la barbarie, l'injustice, corruption, etc. Beaucoup ont payé même des années de prison de leur vie pour les convictions pour lesquelles ils se sont battus. Donc, moi, je réponds oui. Aujourd'hui comme hier, le monde a besoin de prophètes. Des prophètes, on va passer aux patriarches, avec Abraham qui passe à deux doigts de tuer son fils. On va venir à cette histoire après un peu de musique. Abraham, c'est un personnage très important dans la Bible. Pourtant, on disait en introduction que si un père agissait comme lui aujourd'hui dans le texte qu'on va lire, il faudrait le signaler à la DPJ ou à la police. Lorsqu'il entend Dieu pour la première fois, là je vais faire une espèce de récapitulation du parcours d'Abraham. Alors, il entend Dieu pour la première fois, il quitte son pays, sa famille, pour aller vers un pays qu'il ne connaît pas, parce que Dieu l'invite à faire ainsi. Rendu là, il va faire alliance avec Dieu, Dieu qui va lui promettre une terre, la terre promise, et une nombreuse descendance. Il part alors avec sa femme Sarah en voyage et arrive en Canaan, le pays que Dieu va lui donner. Abraham et Sarah ont donc trouvé la terre promise par Dieu. Pourtant, ils ne peuvent pas avoir d'enfants ensemble. Le texte dit que Sarah était stérile et que les deux sont âgés, en fait très âgés. Si ma mémoire est bonne, ils sont autour de 90 ans et tout ça. Alors, normalement, tu ne peux pas avoir d'enfants. Comment est-ce qu'Abraham va avoir une grande descendance? Sarah propose à Abraham d'avoir un fils avec sa servante Agar. Ils vont avoir un fils auquel ils vont donner le nom d'Ismaël, qui veut dire « Dieu a entendu ma demande ». Mais Dieu renouvelle sa promesse de donner un fils à Abraham et Sarah malgré leur vieillesse. Il n'y a rien qui est impossible à Dieu, surtout dans les textes du livre de la Genèse. Abraham avait déjà 100 ans lorsque Sarah va apprendre la nouvelle. Puis lorsqu'elle apprend la nouvelle qu'elle est enceinte, elle, comme elle est aussi très âgée, se met à rire. Je vous cite le texte, elle dit « Tout usé que je suis, pourrais-je encore jouir? Et mon maître est si vieux. » Ça, c'est Genèse, chapitre 18, verset 12. Puis, ils ont pourtant un fils qu'ils appellent Isaac. Ça veut dire « Dieu rit » ou « Dieu m'a donné de quoi rire » parce que c'était la réaction de Sarah à apprendre qu'elle était enceinte. Donc, Abraham a deux fils, Ismaël et Isaac. En même temps, Abraham a deux femmes. Il y a une femme officielle et il y a sa servante. Qu'est-ce qui arrive quand il y a deux femmes et un homme? Peut avoir un peu de jalousie. C'est le cas ici. Sarah veut avoir toute l'attention d'Abraham pour elle et son fils. Elle lui demande donc de renvoyer Agar, la servante, et Ismaël, son enfant, au désert. Abraham va consentir à ça. Et avec l'aide de Dieu, Agar et Ismaël vont parvenir à survivre à la traversée du désert et se rendre de l'autre côté. Les traditions juives et musulmanes veulent que les tribus arabes, alors que les musulmans, soient descendants d'Ismaël, de ce fils qui a traversé le désert. Donc, il y aurait comme lointaine parenté entre juifs et musulmans. Bon, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai? On n'ira pas là-dedans parce que c'est pas le sujet de notre émission. Après ça, arrive un des récits les plus troublants de la Bible. Moi, en tout cas, ça m'a toujours questionné ce récit-là. Après s'être séparé de l'un de ses fils, Abraham va-t-il devoir sacrifier l'autre? Je vais vous lire ce texte. Ça vient du livre de la Genèse, au chapitre 22, les versets 1 à 13. Or, après ces événements, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit « Abraham ». Il répondit « Me voici ». Il reprit « Prends ton fils, ton unique Isaac, que tu aimes. Parle pour le pays de Moria et là tu l'offriras en sacrifice sur les montagnes que je t'indiquerai. » Abraham se leva de bon matin, sangla son âne, prit avec lui deux de ses jeunes gens et son fils Isaac. Il fendit les bûches pour l'Holocauste. Il partit pour le lieu que Dieu lui avait indiqué. Le troisième jour, il leva les yeux et vit de loin ce lieu. Abraham dit aux jeunes gens, « Demeurez ici avec l'âne. Moi et le jeune homme, nous irons là-bas pour nous prosterner, puis nous reviendrons vers vous. » Abraham prit les bûches pour l'Holocauste et en chargea son fils Isaac. Il prit en main la pierre à feu et le couteau, et tous deux s'en allèrent ensemble. Isaac parla à son père Abraham. « Mon père, dit-il. » Et Abraham répondit, « Me voici, mon fils. » Il reprit, « Voici le feu et les bûches. Où est l'agneau pour l'Holocauste? » Abraham répondit, « Dieu saura voir l'agneau pour l'Holocauste, mon fils. » Tous deux continuèrent à aller ensemble. Lorsqu'ils furent arrivés au lieu que Dieu lui avait indiqué, Abraham y éleva un autel et disposa les bûches. Il lia son fils Isaac et le mit sur l'autel au-dessus des bûches. Abraham tendit la main pour prendre le couteau et immoler son fils. Alors, l'ange du Seigneur l'appela du ciel et cria, « Abraham, Abraham !» Il répondit, « Me voici. » et le reprit, n'étend pas la main sur le jeune homme. Ne lui fais rien, car maintenant je sais que tu crains Dieu, toi qui n'as pas épargné ton fils unique pour moi. » Abraham leva les yeux, il regarda, et voici qu'un bélier était pris par les cornes dans un fourré. Il alla le prendre pour l'offrir en holocauste à la place de son fils. C'est un extrait du livre de la Genèse, au chapitre 22, les versets 1 à 13. Ouf, il en fallut de peu pour qu'Abraham sacrifie son propre fils. Comment un parent ne serait-il pas troublé à la lecture de ce récit-là? Sacrifier son propre enfant, c'est insensé, c'est impossible. Ce récit-là, il est plus qu'insolite, c'est même un récit qui pourrait être scandaleux. Dieu demande à Abraham d'aller sacrifier le fils que lui-même lui a donné alors qu'il n'arrivait pas à concevoir d'enfant avec Sarah. Si on lit ce récit avec des yeux d'enfant, c'est encore plus difficile à lire, c'est encore plus horrible si on se met dans la peau du pauvre Isaac. Moi, je trouve le moment le plus horrible, c'est quand il va demander à son père, « Papa, on a tout pour faire le sacrifice, mais il est où l'agneau? » Alors, il ignore lui-même qu'il était cette victime. Son père protecteur, celui qui l'aime, veut le sacrifier, lui qui est sans défense. Heureusement, Dieu arrête tout ça, il arrête le geste d'Abraham, mais il le fait à la toute dernière minute lorsque le couteau est tiré. Alors, il y a vraiment une tension dans le texte. Comment est-ce que les traditions juives chrétiennes vont comprendre ce récit-là? Parce qu'il y a toutes sortes de façons de l'interpréter. Dans la tradition juive, le sacrifice d'Abraham va être plutôt appelé la ligature d'Isaac. Alors, Isaac qu'Abraham a attaché. Puisqu'il va être attaché, mais il ne va pas être sacrifié, il ne sera pas tué. Ce n'est pas un sacrifice, en fait. Le geste est commémoré à chaque nouvelle année juive, lors de la fête qu'on appelle le Rosh Hashanah. Selon plusieurs passages de l'Agada, ça c'est un ensemble de textes de nature homilétique de la littérature rabbinique, alors c'est des commentaires de textes du livre de la Genèse, entre autres, c'est Satan et non Dieu qui aurait voulu mettre Abraham à l'épreuve. Alors c'est leur façon de comprendre ça. Alors c'est pas Dieu qui a demandé le sacrifice, c'est plutôt Satan, en lui demandant de faire ce sacrifice-là. Et Dieu l'aurait arrêté à la fin. L'attitude du jeune Isaac, qui obéit à tout ça, puis qui se laisse aller dans tout ça, est présentée comme un modèle pour les Juifs, surtout pour les Juifs qui vont mourir martyrs lors de différents conflits. Entre autres, quelques centaines d'années avant Jésus-Christ, il y a des Juifs qui vont mourir martyrs sous l'occupation grecque. On a parlé d'eux il n'y a pas tellement longtemps. Alors, ils vont voir en Isaac ce modèle d'obéissance totale à Dieu, de se laisser aller malgré tout jusqu'au bout. Dans la tradition musulmane, on va aussi avoir ce texte-là. Sauf que, au lieu d'être Isaac, ça va plutôt être Ismaël qui va être offert en sacrifice par Abraham. Et bon, ce sacrifice-là est présenté comme l'acte fondateur de l'abandon total de la créature à son créateur. Pour les musulmans, c'est le symbole de la confiance absolue en la volonté divine. Son souvenir est commémoré chaque année aussi chez les musulmans dans une fête qu'on appelle la fête du sacrifice ou Aïd el-Adha, où on offre rituellement un bélier en sacrifice, pour se rappeler de ce texte-là. Il faut noter que dans leur interprétation du récit, bon, comme je vous ai dit, dans le Coran, c'est plutôt Ismaël et non Isaac qui passe proche de se faire sacrifier. La raison de cet échange, c'est que c'est tout simple, les musulmans vont se percevoir comme les descendants d'Ismaël. Alors, ils veulent parler de leur ancêtre Ismaël, alors que les Juifs, eux, leur ancêtre, c'est Isaac, ils veulent parler d'Isaac. Chez les chrétiens, ce récit-là va être présenté d'une façon complètement différente. On va interpréter la mort de Jésus à partir de ça. On va montrer Jésus un petit peu sur la croix comme Isaac aussi, qui est encore une fois le modèle de quelqu'un qui va mourir martyr complètement, de façon complètement innocente. Abraham était prêt à sacrifier son fils Isaac pour Dieu. Isaac se soumet à son père. De même, Jésus, fils de Dieu, est sacrifié pour sauver les humains, dans une certaine interprétation. Bien, l'acte d'Abraham devient donc une image, un symbole du sacrifice de Jésus. D'ailleurs, la lettre aux Hébreux, qu'on ne connaît pas tellement bien, ça c'est une lettre qui est dans le Nouveau Testament après les lettres de Paul, au chapitre 11, est un bon exemple de cette interprétation-là. Lui aussi, il va parler justement de Jésus comme un nouvel Isaac. Plusieurs autres passages du Nouveau Testament vont montrer cette histoire comme un exemple parfait de foi, de confiance totale, d'obéissance à Dieu. Donc, dans les trois traditions, musulmanes, juives, chrétiens, on réfléchit à ça. Une chose qu'on dit pas très, très souvent, c'est, bon, ce texte-là, pour moi, là, c'est d'abord et avant tout un texte qui vise la fin des sacrifices d'enfants. Si on parle de ça, c'est parce qu'à cette époque-là, il y avait des sacrifices d'enfants dans la culture autour de ça. Et je ne suis pas le seul, il y a plusieurs commentateurs modernes qui vont parler de ce récit-là comme un récit qui sert à condamner les sacrifices humains et qui vont plutôt préférer remplacer par des sacrifices d'animaux. On voit à la fin du texte, c'est plus un enfant qui est offert en sacrifice, c'est un animal. Parce que les sacrifices d'enfants, en particulier ceux qui avaient pour but de manifester une confiance absolue en Dieu pour lui offrir ce qu'on avait de plus cher, ça, on voyait ça dans plein de religions et de cultures autour d'Israël. Ces sacrifices humains avaient encore lieu, même dans les temps bibliques. On voit ça dans le livre des Rois, dans le livre de Michée, de Jérémie, au temps d'Akaz, de Manassé, de Josias, des rois de Juda, des prophètes Michée et Jérémie, on voit des traces de ces sacrifices humains-là. Souvent, c'est pour dire « il ne faut pas le faire », mais justement, en disant « ne faites pas ça », ça veut dire qu'il y en a qui le faisaient. Les sacrifices d'Isaac est arrêté par Dieu et il est remplacé par celui d'un bouc. Donc, comme je le disais, ce récit suppose la condamnation des sacrifices d'enfants, une condamnation qui sera plusieurs fois répétée dans la Bible. Pour soutenir cette thèse, on peut ajouter que le lieu du sacrifice d'Isaac, on l'a entendu dans le texte, hein, c'est le mont Moria. Vous avez peut-être jamais entendu ça. C'est quoi? Ben, en fait, on ne le sait pas, c'est inconnu. Mais avec la tradition juive, eux, ils vont relier ça au mont Sion, la colline sur laquelle est bâti le temple de Jérusalem, le lieu par excellence des sacrifices d'animaux. Donc, comme ce texte, ce récit a été écrit à une époque où le temple existait à Jérusalem, c'est au retour de l'exil, on peut avoir que ce texte-là avait peut-être un objectif de rappeler l'importance des sacrifices d'animaux au temple au lieu des sacrifices humains. Ce récit-là a inspiré beaucoup de peintres, de musiciens au cours de l'histoire. Hein. On vous fait aller sur Internet pour essayer de regarder ça. Moi, il y a une chanson qui me marque, que ça, je suis presque obsédé par son refrain. On va l'écouter. C'est le regretté Sylvain Lelièvre qui l'a chanté. C'est intitulé « Abraham et Papa ». Ça reprend l'histoire du sacrifice d'Abraham. Puis, à quelque part là-dedans, il y a quelque chose d'intéressant, c'est que ça critique les images qu'on a de Dieu pour remettre en question l'héritage laissé par la chrétienté. Parce qu'à quelque part, il y a quelque chose d'injuste, d'absurde dans la souffrance d'un innocent. Puis, dans cette chanson-là, cette souffrance injuste-là est décriée avec insistance. Faut écouter cette chanson-là. C'est un peu provocant, mais ça peut entraîner une réflexion sur l'image qu'on a de Dieu. On va l'écouter. Moi, en tout cas, je trouve ça intéressant. J'espère que vous allez partager cet intérêt.
Autrefois, Yahvé vint prendre le thé chez son vieux pote Abraham. Il lui dit, mon vieux, t'as l'air de douter. Je dois éprouver ton âme. Si tu crois en moi, si j'ai ton soutien, en un mot, si t'as la foi, ton petit vaut rien, de fils qui faut rien, tu l'immoleras pour moi. Toi t'aurais jamais fait ça, papa, non t'aurais jamais, jamais fait ça. Dire qu'Abraham approchait alors plus ou moins 140 ans, qu'il fut quelque peu fêlé sur les bords, c'est bien possible, et pourtant il partit dès l'aube du lendemain, emmenant son fils avec lui, et sans dire un mot, il prit le chemin dont son Dieu l'avait instruit. Toi t'aurais jamais fait ça, papa, non t'aurais jamais, jamais fait ça. Tant de bois, demande Isaac, tel était le nom. Son père lui répond, sans le moindre trac, on va faire un sacrifice. Et pas tant dit l'autre, mais y a pas d'agneau, sans agneau, pas de méchoui. Et soudain le vieux brandit son couteau. Soudain le fils accompli. Toi, t'aurais jamais fait ça. Papa, non, t'aurais jamais, jamais fait ça. Connais la suite, l'ange est arrivé, stoppant le bras du prophète. Faut croire que la chose amusa Yahvé, puisqu'un jour il l'a refait. Des siècles plus tard, sous un autre nom, il envoie son propre fils crevait sur la croix, mais pas d'ange, non, pour le soustraire au supplice. Toi, t'aurais jamais fait ça, papa, non, t'aurais jamais, jamais fait ça. Toi, t'aurais jamais fait ça, papa, non, t'aurais jamais. Jamais fait ça.
Vous êtes à l'écoute des récits insolites de la Bible avec Sébastien Dhaune. Aujourd'hui, on a analysé le récit du sacrifice d'Abraham. Cette histoire vient remettre en question nos images de Dieu. C'est d'ailleurs ce qu'on a entendu en écoutant la chanson de Sylvain Lelièvre portant sur ce sujet-là. On pourrait croire à première vue que Dieu, c'est un être sans cœur qui n'hésite pas à demander à un père de sacrifier son enfant. Hein. C'est démesuré, tout ça. Mais lorsqu'on comprend que c'est au contraire un texte pour faire cesser les sacrifices d'enfants, ce texte, tout d'un coup, c'est clair. On voit que l'image de Dieu, ce n'est pas juste un Dieu qui demande des sacrifices. Au contraire, c'est un Dieu qui pourrait être plutôt du côté de la vie que de la mort. Et ce Dieu-là suscite un questionnement sur les coutumes ancestrales, sur les pratiques dans les autres pays. Il veut inviter à choisir la vie et non la mort. Dans tout ça, il y a une fausse image de Dieu qu'on ne peut plus utiliser pour justifier n'importe quoi. Vous savez, souvent, on va dire Dieu veut ci, Dieu veut ça. Encore très récemment, il y avait le président George Bush aux États-Unis qui, quand il partait en guerre, disait que Dieu était de son côté et que le mal était de l'autre puis qu'il fallait aller détruire le mal. C'est un peu rapide. Comment est-ce qu'on fait pour savoir de quel côté Dieu est dans un conflit? Moi, je pense que Dieu est du côté de la vie et il faut tout faire pour essayer de voir cette image-là de Dieu et d'amener ça dans nos pratiques. Chaque lecteur, chaque lectrice est invité à reconnaître un Dieu libérateur parce que fondamentalement, c'est cette image-là qui est l'image centrale de Dieu dans l'Ancien Testament. Un Dieu qui libère de l'esclavage, un Dieu qui libère du poids des ennemis et ultimement de la souffrance et de la mort, pourvu qu'on lui fasse confiance. Donc, quand on lit le texte d'Abraham et du sacrifice d'Isaac, je crois qu'il faut avoir en tête cette image du Dieu libérateur et non le contraire. On est invité, nous aussi aujourd'hui, à revoir nos images de Dieu. Celles qui sont en nous, qui ont été transmises par nos parents, par nos éducateurs, à l'école, à l'église, on peut se poser la question, qui est Dieu pour moi? Est-ce que c'est un Dieu qui me libère? Est-ce que c'est quelqu'un qui va m'empêcher d'aller vers des toutes sortes de choses qui mènent à la mort? Ou au contraire, est-ce que c'est un Dieu qui m'enchaîne? Est-ce que je me sens brimé dans mes propres pratiques de ma vie de tous les jours, dans mes pratiques religieuses? Ou au contraire, est-ce que mes pratiques religieuses vont me donner un sentiment de liberté? C'est à quelque part, on a les deux images dans notre texte. Est-ce qu'on est comme Abraham au départ, qui comprend qu'il faut, qui attache son fils pour le sacrifier pour Dieu, ou au contraire, qui va le libérer? C'est à chacun de voir. Parce que j'espère que pour nous, pour vous, la religion que vous avez, c'est une religion qui vous libère et qui vous amène vers quelque chose de positif. C'est déjà la fin de cette émission. Pour aller plus loin, je vous recommande mon livre « Mais d'où vient la femme de Caïn? Les récits insolites de la Bible » publié aux éditions Novalis Médiapol. Merci pour votre écoute. Merci à Alain Primo qui est à la technique. La prochaine fois, on va traiter d'un autre texte très intéressant, le veau d'or. Le veau d'or qui est à la fois un lieu de pardon, mais aussi un lieu de carnage. Plusieurs personnes y laissent la peau. On va aller voir ce texte-là la semaine prochaine. C'est quelque chose d'assez intéressant. Ici Sébastien Donne, bibliste. Je vous souhaite une excellente semaine. À la prochaine.